Alors bonjour. J'aimerais avant de commencer remercier plusieurs personnes. Déjà Brian, parce que dimanche passé, il nous a parlé de l'amour. Et vous allez le voir, l'amour, c'est un petit peu ce à quoi on va arriver avec ce partage de la parole ce matin. Merci Rebecca aussi et le groupe de louanges pour ce qu'on a pu vivre ensemble. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs allusions à l'amour. Et il y a aussi le fait que la louange est tellement précieuse avant de partager la parole ensemble. Alors, le message de ce matin s'inscrit dans la suite des messages sur la première épître aux Corinthiens. On aborde aujourd'hui les chapitres 10 et 11 de 1 Corinthiens. Et ce sera aussi le thème de notre étude biblique de mardi prochain. Alors voilà, si vous voulez avoir quelque chose de plus complet, ben voilà, venez mardi. La pub est facile. Ce matin, on va s'arrêter tout particulièrement sur le chapitre 10 et la fin du chapitre 11. Dans l'étude biblique de mardi, on abordera l'ensemble des deux chapitres. Raison de plus pour venir mardi. Le début du chapitre 11 traite des attitudes de l'homme et de la femme dans l'Église. Et ce sujet se prête mieux à une étude biblique qu'à un culte, qu'à un message. Il se prête surtout mieux au dialogue qu'au monologue. C'est surtout un sujet dont on a besoin de partager. Donc, 1 Corinthiens 10. Le chapitre 10 de 1 Corinthiens se divise facilement en quatre parties. Tout d'abord les versets 1 à 13 qui nous présentent ce qui a été vécu par le peuple d'Israël afin que cela nous serve d'exemple, ce qui a été vécu par le peuple d'Israël dans le désert. Ensuite, dans les versets 4 à 22, Paul met en garde les Corinthiens du danger de l'idolâtrie. Du verset 23 au verset 30, Paul développe ce qui doit être l'attitude du croyant vis-à-vis du mode de vie et de la liberté des autres. Et enfin, dans la fin du chapitre, et jusque même au premier verset du chapitre 11, Paul nous dévoile la finalité de ces passages, ce que nous avons à retenir et ce qui devrait, c'est ça qui est important, ce qui devrait changer dans notre vie si on a bien compris le message de Paul dans 1 Corinthiens 10. Mais ce chapitre 10, dans son ensemble, est aussi à comprendre au niveau de la liberté que nous avons en tant que croyants. C'est-à-dire, quelle est notre liberté et aussi, surtout, comment pouvons-nous la vivre par rapport aux autres. C'est bien connu, notre liberté s'arrête là où celle des autres commence. Donc, première partie, passage de 1 Corinthiens 10, l'exemple d'Israël dans le désert. Là, ça concerne les 11 premiers versets. Georges Santayana, un professeur de philosophie, écrivait au début du XXe siècle que celui qui ne connaît pas l'histoire est destiné à la répéter. Celui qui ne connaît pas l'histoire est destiné à la répéter. C'est-à-dire qu'il n'en tire pas de leçons pour lui-même. Il disait que nous apprenons rarement de ce qui s'est passé avant nous, même lorsque les résultats sont évidents chez ceux qui nous ont précédés. Et en plus, dans l'exemple qui nous intéresse, donc de ce que les Israélites ont vécu dans le désert, il y a aussi toute une portée spirituelle qui existe, puisque depuis la sortie d'Égypte jusqu'à l'entrée dans le pays promis, l'histoire du peuple d'Israël symbolise notre cheminement spirituel depuis notre conversion et jusqu'à la fin de notre course ici-bas. On lit juste un verset, le verset 6. « Or, ces faits sont arrivés pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux en ont eu. » Rappelons-nous quel était le contexte dans lequel les Israélites vivaient lorsqu'ils étaient dans le désert. Alors, après être restés environ 210 ans en Égypte, alors 210 ans c'est long, c'est plusieurs générations, donc ceux qui sont sorti d'Égypte, n'avait pas connu autre chose. Après être restés 210 ans en Égypte, les Israélites sont devenus esclaves des Égyptiens. Mais Dieu les a miraculeusement délivrés de l'esclavage par l'intermédiaire de Moïse et Aaron. Et maintenant, les Israélites sont dans le désert en direction du pays promis. Ils avaient des promesses, un pays promis, en direction de Canaan. La sortie d'Égypte du peuple d'Israël, je l'ai dit tout à l'heure, et leur cheminement dans le désert et la conquête du pays promis sont une préfiguration, ou si vous voulez, un symbole de notre cheminement spirituel depuis notre conversion jusqu'à la fin de notre vie sur terre. Maintenant que le peuple est dans le désert, il est libéré des Égyptiens, évidemment. Il est libéré aussi de l'esclavage. Mais que représente cette liberté pour ce peuple qui avait l'habitude d'être esclave, qui avait finalement toujours vécu dans l'esclavage? Alors concrètement, de quoi est-il question dans ces exemples qu'il ne faut pas suivre? Mais surtout, qu'est-ce qui peut nous amener à vivre ce que les Israélites n'ont, eux, pas réussi à vivre? Alors tout d'abord, il est question de l'idolâtrie. Le verset 7, « Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux. » Pour les Israélites, il est ici question d'adorer d'autres dieux. Au début du voyage entre l'Égypte et le pays de Canaan, Moïse a rencontré Dieu sur la montagne du Sinaï, et c'est là que Dieu lui a donné la loi des 10 commandements. Ces 10 commandements étaient écrits sur une tablette de pierre que Dieu a remise à Moïse. Mais cette rencontre entre Dieu et Moïse a duré 40 jours. Et 40 jours, pour les Israélites, c'était long, très long. Et comme c'était long, ils se sont impatientés. Et au lieu de s'attendre à Dieu, ils ont agi par eux-mêmes. Ils ont récolté l'or qu'ils avaient avec eux et ils l'ont coulé pour faire un veau d'or, pour en faire un dieu à eux, un dieu qu'ils maîtrisent, un dieu même qu'ils ont conçu de toutes pièces. Ils ont alors détourné leur regard du vrai Dieu pour les tourner vers un dieu qui n'entend pas, alors que le vrai Dieu entend, pour tourner leur regard vers un dieu qui ne voit pas, qui ne parle pas. Ils ont tourné leur regard vers un faux Dieu, ou vers un Dieu faux, si vous préférez. Pour nous, au XXIe siècle, quelles sont les idoles que nous pouvons adorer? Il y en a plus que nécessaire. Voiture, travail, maison, chanteur, joueur de foot, etc. Mais Dieu ne veut pas la seconde place. S'il est entré dans notre vie, il ne peut être qu'à la première place. Si Dieu est à la deuxième place, ce qui est à la première place prendra toute la place. Et il n'y aura plus de deuxième place. Deuxième point qu'on voit dans cet exemple des Israélites, l'immoralité sexuelle. C'est le verset 8. « Ne nous livrons pas non plus à l'immoralité sexuelle comme certains d'entre eux l'ont fait. » Pendant la traversée du désert, et même au premier siècle de notre ère, donc du temps de l'église de Corinthe, l'immoralité sexuelle et l'idolâtrie allaient bien souvent de pair. Parce que le culte idolâtre comprenait la pratique de certaines immoralités sexuelles. L'idolâtrie comme l'immoralité sexuelle nous éloigne de Dieu. On ne va pas s'arrêter beaucoup plus longtemps sur ce point. Point suivant, provoquer Dieu. Ça, c'est le verset 9. Ne provoquons pas Christ comme certains d'entre eux l'ont fait, si bien qu'ils sont morts, victimes des serpents. Alors, le verset 9, il nous renvoie à leur plainte à propos de la nourriture. Alors, replaçons-nous un petit peu dans le contexte. Alors qu'ils ont été délivrés de l'esclavage, qu'ils ont vu depuis qu'ils ont quitté l'Égypte, et même juste avant de quitter l'Égypte, ils ont vu de nombreux miracles. Et juste après que Dieu les ait délivrés d'un roi, le roi Arad. Voici ce qui nous est rapporté en Nombre 21. Ils partirent du mont Hor par le chemin de la mer des roseaux pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte, si c'est pour que nous mourions dans le désert? En effet, il n'y a ni pain ni eau et nous sommes dégoûtés de cette misérable nourriture. Alors qu'ils sont en marche vers le pays promis, qu'ils mangent tout le jour la nourriture donnée miraculeusement par Dieu, la manne, puisque tous les jours le sol se recouvrait de la manne, c'est-à-dire d'une nourriture miraculeuse que Dieu leur donnait, qu'ils n'avaient qu'à ramasser et manger pour la journée, alors qu'ils vivaient ça tous les jours, ils s'impatientent contre Dieu et contre Moïse. Point suivant, les lamentations. Rassurez-vous, on a bientôt fini. Ça va être un petit peu plus positif tout à l'heure. Et maintenant, les lamentations. Donc, on lit le verset 10. Ne murmurez pas, comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte qu'ils sont morts sous les coups du destructeur. Alors, on commence à se lamenter quand notre attention passe de ce que nous avons à ce que nous n'avons pas. Au lieu de regarder ce qu'on a, on regarde ce qu'on n'a pas, et c'est ce qu'ils faisaient en fait. C'est comme ça qu'ils se sont lamentés. Les Israélites se sont souvent lamentés lors de la traversée du désert. Ça n'a pas été un épisode unique. Mais l'apôtre Paul fait ici référence aux lamentations des Israélites lorsqu'ils ont découvert le pays promis par l'intermédiaire des 12 explorateurs qu'ils ont envoyés. Alors là aussi, il faut rappeler un petit peu le contexte. 15 mois après leur départ du pays d'Égypte, départ miraculeux, 15 mois après ce départ, ils arrivent aux portes du pays promis. Et Dieu demande que le pays soit exploré par 12 représentants du peuple, un de chaque tribu. On voit ça dans Nombre 13, c'est très intéressant à voir. Et sur les 12 explorateurs, 2 ont été positifs, et 10 ont fait un retour au peuple et à Moïse négatif. Ils ont fait ce retour négatif en voyant la force des habitants et leur forteresse imprenable à vue humaine. Ils n'ont pas cru que Dieu pouvait leur donner le pays. Ils n'ont pas cru. On va lire ça dans Nombre 13, les versets 25 à 33, parce que c'est intéressant de voir ce qui s'est passé, pour en tirer les leçons pour nous. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse, donc les 10 qui n'ont pas cru. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Donc ils ont ramené des fruits pour montrer. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des descendants d'Anak. Les Amalécites, donc c'était chaque fois des peuples, les Amalécites habitent la région du sud. Les Hittites, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent au bord de la mer Méditerranée et le long du Jourdain. Ils n'ont pas cru à la promesse qu'ils pourraient prendre ce pays, que Dieu le leur donnait. Ils n'ont pas cru et ils se sont révoltés. Et on voit au chapitre 14, « Toute l'assemblée se souleva et poussa des cris, et le peuple pleura toute la nuit. Tous les Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, « Si seulement nous étions morts en Égypte ou dans ce désert. » Ils avaient le moral, hein. « Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie ? Ne vaut-il pas mieux que pour nous retourner en Égypte ? » Ils n'ont pas cru, ils se sont révoltés, et pour finir, ils décident de retourner en Égypte. Ben bravo. Et tout ça à cause de leur incrédulité, de leur complainte et de leur lamentation que Dieu les a fait. Et c'est à cause donc. C'est à cause de leur incrédulité, de leurs complaintes, de leurs lamentations que Dieu les a fait rester pendant 40 ans dans le désert. Puisque vous avez vu, ils sont arrivés au pays de Canaan après 15 mois, donc à peine plus qu'une année. Mais ils y sont restés 40 ans. Ils y sont restés 40 ans parce qu'ils n'ont pas cru. Et pendant ces 40 ans, ils ont tous péri dans le désert, sauf deux personnes. Sauf Josué et Caleb, qui, eux, ont cru à la promesse de Dieu et ont encouragé le peuple à conquérir le pays promis. Ils ont été les seules deux personnes à avoir connu et l'Égypte et le pays promis. Revenons à 1 Corinthiens 10. On voit donc le verset 13 qui termine cette première partie de l'exemple du peuple d'Israël dans le désert et qui est très utile pour nous. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle. Merci Rebecca. Et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Même dans la tentation, Dieu est là, près de nous. Il prépare le moyen d'en sortir. Mais quelle est notre part? Notre part, c'est de regarder à lui, uniquement à lui, et ensuite de lui faire confiance. C'est le contraire de ce qu'ont fait les Israélites. Notre part est de lui faire confiance. Ne doutons pas. Faisons confiance à celui qui nous a rachetés et qui désire le meilleur pour nous. Alors pratiquement, comment est-ce que Dieu nous aide dans notre lutte contre la tentation? J'aimerais dire, premièrement, Dieu nous aide à reconnaître les personnes et les situations qui sont source de difficultés. Il faut déjà les reconnaître, les repérer. Deuxièmement, nous avons à nous éloigner de tout ce que nous savons faux. Ça, c'est notre part, nous éloigner. Troisièmement, pour décider de faire seulement ce qui est juste. Nous éloigner, oui, mais pour décider de faire ce qui est juste. Quatrièmement, utiliser les moyens que Dieu nous donne. Avoir recours à la prière et rester en relation avec Dieu. Très important, la relation avec Dieu. Cinquièmement, ne pas rester seul en relation avec Dieu, oui, mais pas tout seul. Trouver des amis, des frères, des sœurs qui soient capables de nous entourer et de nous aider. C'est à ça que sert l'Église. Nous éloigner d'une tentation représente donc le premier pas vers la victoire. Paul recommandait à Timothée, son enfant dans la foi, on voit ça dans 2 Timothée 2, au verset 22, « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. » Puis dans 1 Corinthiens 10, le passage suivant, donc les versets 14 à 22, Paul met tout particulièrement en garde les Corinthiens du danger de l'idolâtrie. Et je vous invite à lire le verset 14, on va lire juste le verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Donc c'est juste après le verset 13, hein, le verset 14. Et dans le « c'est pourquoi », oui, c'est une évidence, mais c'est important. Et le « c'est pourquoi » est là pour nous montrer que le verset 14 est lié au verset 13. Si Dieu nous assure qu'avec la tentation, il nous prépare le moyen d'en sortir, avec l'idolâtrie, et on verra juste après qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie pour nous aujourd'hui, avec l'idolâtrie, il nous demande de nous en détourner. Vous vous rappelez, l'idolâtrie, ce sont ces choses qui, dans nos vies, prennent une place qui doit revenir à Dieu. À Corinthe, le culte aux idoles était la principale expression religieuse. À Corinthe, à l'époque, c'était très différent du Pidgex d'aujourd'hui. Dans la ville se trouvaient plusieurs temples païens très populaires. Et les gens accordaient aux statues de bois ou de pierre la place et la confiance qui ne doit revenir qu'à Dieu seul. L'idolâtrie, elle est toujours présente aujourd'hui, mais souvent sous des formes différentes, la plupart du temps même sous des formes différentes, en tout cas dans nos pays, dans nos régions. Nous ne plaçons plus notre foi dans des statues en bois ou en pierre, mais dans des billets de banque, dans des cartes de crédit. Placer notre confiance ailleurs qu'en Dieu, c'est ça l'idolâtrie. Les idoles modernes, ce sont les symboles du pouvoir, du plaisir et du prestige auxquels nous accordons peut-être de l'importance. En tout cas, le monde y accorde de l'importance. C'est vrai, le monde qui nous entoure donne beaucoup d'importance à ces choses, mais pour nous, il en est autrement. En tout cas, il doit en être autrement. Et Paul nous recommande de fuir l'idolâtrie. Il n'est pas dit de vaincre l'idolâtrie, il nous est dit de fuir l'idolâtrie. Alors fuir, ça signifie concrètement ne pas toucher, ne pas y mettre les doigts. Prenons conscience que ces petites choses, entre guillemets, qui détournent notre confiance de Dieu sont importantes. Dieu ne promet pas de nous aider à y faire face pour les vaincre, il nous demande de nous en détourner, de les fuir. Au début, ces petites choses nous semblent insignifiantes, mais dans notre vie, elles ont la fâcheuse habitude de prendre toujours plus de place et de prendre toujours plus la place qui revient à Dieu. Notre liberté, ce sont les versets 23 au verset 30. Paul traite ici de la liberté du croyant et aussi de cette liberté en fonction de la liberté des autres. On lit les versets 23 et 24. « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais plutôt celui de l'autre. » Selon la liberté chrétienne que Paul nous montre, toutes les choses où il n'y a point de péché sont permises. Mais l'amour veut que l'on prenne en compte ce qui est avantageux pour les autres, ce qui édifie les autres. Alors pourquoi est-ce que la conscience d'un autre devrait limiter notre liberté? Mais c'est simplement parce que nous recherchons la gloire de Dieu en tout. Même à propos de simples événements de la vie commune, comme le manger et le boire. Et on voit ça tout à fait bien dans les versets suivants, qui sont la conclusion de ce chapitre. On lit donc les versets 31, donc du verset 31 du chapitre 10 au premier verset du chapitre 11. « Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez ou que vous fassiez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez une cause de faux pas, ni pour les non-juifs, ni pour les juifs, ni pour les uns, ni pour les autres, ni pour l'Église de Dieu. Faites comme moi, c'est Paul qui parle. Je m'efforce en tout de plaire à tous, recherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Alors Dieu a tout créé pour sa gloire. Le but de la création, c'est la gloire de Dieu. En conclusion, Paul nous demande de respecter cette finalité pour laquelle Dieu nous a créés. Tout faire pour sa gloire. Voilà pourquoi c'est si important de commencer notre culte en rendant gloire et honneur à Dieu par le chant et la louange. Mais notre vie entière est appelée à rendre gloire à notre Dieu. Et en rendant cette gloire à Dieu, nous accomplissons ce pour lequel nous sommes créés. Mais quelle est la clé de cette attitude? Car c'est bien une attitude dont il est question ici. C'est vrai, dimanche passé, Brian nous a parlé de l'importance de l'amour dans notre relation avec Dieu. En 1 Corinthiens 13, Paul montre ce qui est le plus important, l'amour. Donc 1 Corinthiens 13, c'est deux, trois chapitres plus loin. On le verra dans quelques mois. On lit juste un verset, c'est facile à s'en rappeler, 1 Corinthiens 13, verset 13. Maintenant donc, ces trois choses restent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Je vous invite aussi à lire un autre passage qui est la prière de Paul pour les Éphésiens et qui complète bien ce qu'on a vu maintenant. C'est dans Éphésiens 3. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Et là, c'est intéressant de voir ce lien qu'il y a entre la connaissance de l'amour de Dieu et le fait d'être rempli de toute la plénitude de Dieu. On parle souvent d'être rempli de la connaissance de Dieu. En voilà le chemin. Les Israélites essayaient d'accomplir la loi. Ils étaient sous le temps de la loi. Mais ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu tout simplement parce que la loi a été donnée pour mettre en évidence le péché, notre péché. Lisons ce que Paul écrivait aux Romains au sujet de l'importance de l'amour. Romains 16, versets 8 à 10. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres, et là c'est intéressant le lien avec la loi, celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignage, tu ne convoiteras pas, ainsi que tous les autres, se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain, évidemment. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Amen. Je vous invite à un temps de recueillement. Et ensuite, on partagera la scène. Et ce sera finalement ce qu'on trouve dans 1 Corinthiens 11, le partage de la scène. Mais je vous invite à prendre déjà un temps de recueillement avant de continuer. Oui Seigneur, merci pour cet exemple des Israélites, pour ce qu'ils ont vécu. Merci parce que tu nous donnes ces exemples pour que nous puissions grandir en toi, pour que nous puissions comprendre mieux et vivre mieux l'amour que tu désires qu'il soit dans nos cœurs, dans nos vies, l'amour qui doit aussi être entre nous, comme il doit être entre nous et toi. Bien, c'est vrai, Seigneur, donne-nous de réaliser cela, de l'intégrer, de le vivre pleinement, profondément, chaque jour, à chaque instant, parce que c'est ce que tu désires, c'est ce que tu nous demandes. Merci parce que tu as tout préparé d'avance, merci parce que tu as tout accompli pour nous, et merci parce que tu nous as aimés le premier. Amen. Donc avec la scène, on arrive à 1 Corinthiens 11, donc la fin du chapitre 11. Là aussi, pour le partage de la scène, on va le voir, l'amour est important. Et l'exemple des Corinthiens, ben waouh, vous allez voir, on va lire les versets, c'est chaud quoi. Les Corinthiens manquaient tellement d'amour entre eux. Et les Corinthiens, ils nous sont donnés aussi comme exemple pour nous, à nous de vivre différemment qu'eux. On lit donc les versets 20 à 26 de 1 Corinthiens 11. Ainsi donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour prendre part au repas du Seigneur. Car dès que vous vous mettez à table, bon, il faut dire qu'à l'époque, ils partageaient un vrai repas. Et chacun apportait ce qu'il allait manger. C'est justement ça qui posait problème. Dès que vous vous mettez à table, chacun s'empresse de prendre son propre repas, de sorte que l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Waouh ! N'avez-vous pas des maisons pour manger et boire ? Ou bien méprisez-vous l'Église de Dieu et voulez-vous faire honte à ceux qui n'ont rien ? Que vous dire ? Faut-il vous féliciter ? Sur ce point, je ne vous félicite pas. Effectivement, sur la façon comment ils vivaient le partage et la scène, ben les Corinthiens, ils n'avaient pas encore tout bien compris, quoi. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Et là, c'est l'exemple qu'on doit suivre. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. » En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alors, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle alliance dont il est question ici ? Sous l'ancienne alliance, les Israélites ne pouvaient s'approcher de Dieu que par l'intermédiaire du prêtre et des sacrifices. Ça, c'était l'ancienne alliance. La mort de Christ sur la croix a introduit la nouvelle alliance, ou le nouvel accord, si vous voulez, entre Dieu et nous. Désormais, chacun peut s'approcher personnellement de Dieu et lui parler. Il n'y a plus d'intermédiaire. Mais la nouvelle alliance ne remplace pas l'ancienne alliance. La nouvelle alliance, on l'a lu tout à l'heure, accomplit tout ce que l'ancienne alliance préfigurait. Prendre le pain et boire la coupe indique que nous nous souvenons de la mort du Christ et que nous témoignons de son prochain retour. C'est aussi l'occasion de renouveler notre engagement à le servir. Puisque le repas est un repas qui a été inauguré entre les apôtres et qui est un repas entre les frères et sœurs en Christ. Lorsque nous partageons la scène, nous le faisons dans une relation d'amour avec Dieu et une relation aussi d'amour entre nous. Car c'est ensemble que nous partageons la scène. C'est pour ça qu'on ne la partage pas chacun chez soi, mais qu'on la partage à l'Église tous ensemble. Je partage déjà les annonces pendant que les gobelets sont ramassés. Dimanche passé, on vous avait dit qu'il y aurait des travaux hier. Il y en a eu tous ces derniers samedis, mais plus particulièrement hier matin. J'aimerais tout spécialement remercier les quelques-uns qui sont venus nettoyer après. Parce qu'il y avait au sous-sol de la poussière de partout. Et même au rez-de-chaussée, il y avait de la poussière, pour vous dire qu'en bas, il y en avait alors vraiment de partout. Donc juste pour dire, on a cassé des morceaux de mur en bas, des morceaux de fondation. Donc s'il y a des enfants qui vont en bas, il faut peut-être les surveiller tout particulièrement. On a mis des paravents, on a essayé de faire en sorte que ce soit protégé. Mais c'est voilà, ça restait quand même un bout de chantier, quoi. Donc pour les annonces de la semaine, ben voilà, vous pouvez les découvrir à l'écran. Oui. Donc,
le fan club.
Oui.
On va continuer.
Voilà, juste. Ouais. Ouais, ouais. Donc,
ici à 13h30.
Voilà, donc le Merci au Femme Club de se retrouver ici pour finir les nettoyages dans les armoires. C'est rentré de partout, malgré les protections qu'on avait mises. Voilà. Donc c'est un Femme Club ouvert en plus. Ah, c'est super. Ils partagent tout au Femme Club. Sinon, mardi, donc, l'étude biblique. Je vous encourage à y participer. Ce sera donc la suite. Donc de 1 Corinthiens 10 et 11. notamment par rapport à ce qu'on n'a pas abordé ce matin. Donc voilà, c'est peut-être pour vous donner plus envie de venir. Jeudi, en plus de la chorale, il y aura un nouveau parcours Alpha Couple. Alors là, j'ai un prospectus avec les informations en détail. Le parcours Alpha Couple, c'est donc un parcours de 7 ou 8 rencontres, spécialement dédié au couple. Le but est de renforcer ce qui se vit dans le couple à la lumière de la parole. Donc ça se fait dans le PGEX, en collaboration avec l'ensemble des églises chrétiennes. Et donc jeudi prochain, il y a donc une soirée découverte. Donc la soirée de jeudi prochain ne vous engage en rien et vous permet de savoir qu'est-ce que ça va être cette série Alpha Couple. Donc si vous voulez y participer, il faut s'inscrire, dites-le-moi. C'est vraiment quelque chose de très utile pour le couple. Et donc c'est mis en place vraiment pour le couple, donc il ne faut pas vous gêner, il faut en profiter. Et c'est quelque chose de vraiment chouette, quoi. Donc il y a aussi une page que j'ai imprimée qui est sur le tableau au fond, qui donne déjà quelques indications. Samedi prochain, il y a le club d'enfants, c'est juste. Et donc, il y a au fond de la salle, ils ne sont peut-être pas encore sur le meuble, mais ils vont y être tout de suite après, des flyers pour inviter. Donc le but, c'est d'inviter des enfants pour qu'ils puissent participer à ces clubs. On l'a dit, dans 2 semaines, on aura donc un culte de baptême. Alors, 2-3 petites infos par rapport à ça. Il y a sur le panneau d'affichage au fond une feuille pour s'inscrire, pour préparer, pour qu'on puisse partager la préparation de l'apéritif dînatoire. On attend passablement de monde. Donc, c'est important à ce qu'il y ait des gens qui préparent. Sinon, ça va être un petit peu tristouné si on est nombreux et qu'il n'y a rien à se mettre sous la dent. Donc voilà, c'est important de s'inscrire et de participer à cela. Et comme on sera nombreux, ben, on ne va pas pouvoir pousser les murs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va mettre la priorité sur les gens qu'on invite, sur les gens qui sont invités et qui vont participer. Donc on va mettre un petit peu moins de chaises. Il y aura un petit peu moins de chaises pour s'asseoir. Et on va laisser les chaises pour les invités. Et puis les personnes pour qui c'est vraiment important de s'asseoir, les personnes âgées et autres. Donc voilà, autant le dire déjà maintenant, comme ça vous pouvez vous y préparer. Et comme ça, on sait que ce sera un super moment qu'on va pouvoir passer ensemble dans la présence de Dieu pour vivre ces baptêmes ensemble. Je vous rappelle donc que le 21, donc 2 jours après les baptêmes, on aura l'assemblée ordinaire, l'assemblée générale ordinaire des associations. Vous allez recevoir très soudainement les ordres du jour. Maintenant, une annonce de Jacques Yosti. On connaît Jacques Yosti depuis quelques années déjà. Jacques Yosti est un ami de Didier Marchand. Et puis il est venu plusieurs fois faire des cultes lorsqu'il est en visite. Jacques Yosti fait des études bibliques pour la radio. Si ça vous intéresse, on peut vous communiquer le site internet sur lequel vous pouvez voir ces messages et les écouter. Mais Jacques a une demande à nous faire. Jacques a une fille de 16 ans. Elle voudrait passer un mois au père dans une famille chrétienne. Donc pour information, Jacques et son épouse et sa famille sont français, mais ils vivent aux États-Unis. Et voilà que sa fille aimerait passer un mois au père dans une famille chrétienne. Alors, apparemment, d'après Jacques, elle a plein d'atouts, sa fille. Elle sait s'occuper des enfants et elle est bonne cuisinière. Et en plus, elle est, d'après Jacques, je n'ai pas vérifié, excellente pâtissière. Donc, elle aimerait venir passer un mois entre le début juin et fin août.
Il faut vraiment qu'il y ait des enfants.
D'accord. Donc voilà, si vous êtes intéressé, si vous connaissez une famille chrétienne chez qui ça pourrait convenir, pour qui ça pourrait être utile aussi, ben voilà, vous pouvez le communiquer, me le communiquer, ou bien le communiquer à Didier si vous le voyez. Enfin voilà. Continuons de penser à ceux qui souffrent dans leur santé. Ne les oublions pas, je n'ai pas de nouvelles plus fraîches à vous partager, Pensons tout particulièrement à Anne-Lise. Que le Seigneur la soulage, la garde aussi pendant ces temps qui ne sont pas faciles. Est-ce que j'aurais oublié quelque chose? Oui.
Donc si vous ne savez pas quoi faire, mercredi soir, on a encore une activité pour vous. Mercredi soir, toutes les personnes qui sont intéressées, elles peuvent se retrouver chez nous à 20h30. On va préparer le thème de l'enseignement pour le club d'été. Donc si vous avez envie de vous engager ou si vous avez des idées débordantes, ce mercredi à 20h30 chez nous pour préparer le club d'enfants, d'été qui aura lieu du 10 au 16 juillet. Et comme j'ai deux secondes, je vous explique juste. Cette année, le club d'été, on aime bien les changements et les challenges. Donc c'est un peu différent. Je ne sais pas si tout le monde est au courant. Le club d'été aura lieu du lundi jusqu'au dimanche. Donc le samedi, non, c'est pas ouf, c'est yes. C'est différent. Tu vois, ça, c'est la manière dont on voit les choses. Donc le samedi, toute la journée, ça sera une journée supplémentaire pour les enfants. On a l'idée de faire venir un intervenant extérieur. Ce jour-là, on fera des activités différentes et on finira tous le dimanche matin par un culte où vous serez tous invités. Donc, Pierrick a déjà ouvert le site. N'hésitez pas, c'est ouvert de 7 à 97 ans. On a besoin d'enfants de 7 à 14 ans, mais on a besoin de tous les autres pour nous aider. Donc, sur le site... Oui, papé, tu es le bienvenu. Sur le site, regardez sur le site si vous avez des questions. Il y a absolument énormément de détails et vous pouvez toujours nous poser des questions. Mais moi, je dis yes, c'est un challenge. On ne sait pas si ça va marcher. Le Seigneur nous a mis ça sur notre cœur. On verra. Peut-être ce ne sera pas bien. On verra. Dans la vie, il faut essayer pour savoir. Et je pense que voilà, on va faire confiance au Seigneur et inscrivez-vous.
Je voudrais simplement vous partager quelque chose, c'est par rapport à vos projets de cet été. Donc il existe un centre des jeunes qui s'appelle le Centre Saint-Lunaire, le CDJ. Et sachant que ça fait partie aussi des choses pour lesquelles l'Église participe au travers des dons, je pense que c'est important que je puisse vous en toucher deux mots maintenant, puisque vos agendas, vous êtes aussi en train de les préparer maintenant. Et sachant qu'on a des emplois du temps de ministre, ce serait peut-être bien aussi de regarder au niveau de vos inscriptions. Ils font tout un tas de séjours et ça touche beaucoup de personnes. Alors il y a des camps pour les ados pendant toute la période de juillet, pour les pré-ados, etc. Il y a des camps qui sont prévus pour les jeunes adultes, qui sont des camps défi-toi pour l'édification dans la parole et des activités sportives. Il y a des camps pour les seniors, il y a des camps music art, il y a des camps bac, il y a tout un tas d'activités qui sont vraiment géniales. Et il y a aussi le camp jeunes et familles. Alors c'est un camp auquel j'ai pu participer pendant plus de 20 ans, qui est fantastique au niveau du ressourcement, au niveau de tout ce qu'on peut y recevoir spirituellement, mais de l'encouragement avec les frères et sœurs. La région dans laquelle se trouve le centre des jeunes, c'est pas loin de Saint-Malo, de Dinard, du Mont-Saint-Michel. Et au niveau touristique, c'est vraiment super. Il y a beaucoup de choses à voir. Donc allez-y. Et donc les dates du camp famille cette année, on y va donc avec Anne-Laure, c'est du 12 au 26 août. Donc j'ai pas mis les flyers malheureusement parce que je les ai pas eu dans les temps, mais je les mettrai bientôt là-bas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir. Je vous redirigerai aussi vers le site. Quoi vous dire de plus? C'est un centre où il y a énormément d'activités possibles puisqu'ils sont à un quart d'heure de la plage. Donc ils ont toute une flotte de catamarans, de voiliers, etc. Qu'on peut utiliser librement les après-midi. Terrain de foot, volley, etc. Donc je ne connais pas bien la JAB, mais c'est un petit peu voilà, une autre alternative pour ceux qui voudraient éventuellement peut-être pas aller à la JAB, mais... c'est quelque chose d'autre. Donc le centre des jeunes, allez-y, c'est super. Et voilà.
Je dirais que c'est surtout un autre dépaysement, puisque d'un côté il y a la montagne, de l'autre côté il y a l'océan. Je vous invite à vous lever, je vous partage encore avec vous deux versets. Dans Philippiens 4, « Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, c'est Paul qui parle, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. Amen. Bon dimanche, bonne semaine.